VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Merci de rester à l'écoute de VOA Afrique. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 27 juillet 2016, en direct de Washington, Bagassi Koura et Anne Alberson. À la une ce matin.
Suite de la convention démocrate, Hillary Clinton est la première femme candidate dans l'histoire des deux grands partis politiques aux États-Unis.
We just put the biggest crack in that glass ceiling yet. Thanks to you and to everyone who's fought so hard to make this possible.
Un djihadiste arrêté au Mali, l'émir Mahmoud Barry, alias Abou Yehia, leader de la Katiba en Sardine du Massina, a été interpellé hier dans le centre du pays.
Le Conseil de sécurité prolonge le mandat de la MINUSCA, la mission de l'ONU en République centrafricaine, jusqu'en novembre 2017.
Et puis en RDC, les 6 activistes pro-démocratie ont été contraints de quitter la prison à Goma. Mais est-ce que ça a vraiment une différence?
C'est un peu comme la même chose, être en prison qu'être à l'extérieur. La RDC elle-même, c'est comme une grande prison. Quand nous vivons dans un contexte où on ne nous laisse pas nous exprimer, ça nous indigne toujours.
Ne manquez pas les sports et l'économie, c'est en fin d'édition, mais d'abord le journal.
Au Mali, un djihadiste arrêté, l'émir Mahmoud Barry, alias Abou Yehia, leader de la Katiba Ansardine du Massina, a été arrêté par la police entre Nampala et Dogofri, dans le centre du pays. Mahmoud Barry, dit Cheikh Yahya Emir, a, selon plusieurs sources, participé à l'attaque de Nampala il y a une semaine avec sa Katiba, c'est-à-dire son unité combattante, aux côtés d'autres sous-groupes armés. De Bamako, correspondance de Kassim Traoré.
Mahmoud Barry, alias Abou Yahia est avec plus de 500 hommes sur le tronçon Tombouctou-Nounou. Il avait revendiqué sa participation à l'attaque contre la brigade de Nara en juin 2015 qui avait occasionné la mort de 9 soldats maliens. Actuellement, il a été financé par Iyad Agali pour torpiller la mise en application de l'accord pour la paix et la réconciliation en procédant à des attaques ciblées des positions des FAMA, de la MINUSMA et de Barkhane sur l'axe Nounou-Tombouctou. L'émir de la Katiba dans Sardine du Massina est très connu dans la zone de Nampala parce qu'il a réalisé il n'y a pas longtemps une vidéo de propagande dans laquelle il parle de l'unicité des enfants du pays qui, selon lui, doit prendre le dessus sur les sensibilités politiques. Il s'y exprime en pile, puis appuie ses propos par quelques versets du Coran en rapport avec les djihad. En effet, ces hommes, selon plusieurs habitants de Nampala, étaient au combat contre les militaires maliens. Vrai ou faux, son audition à la DGC malienne permettra d'en savoir plus. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé ce mardi le mandat de la MINUSCA, la mission de l'ONU en République centrafricaine, jusqu'au 15 novembre 2017 avec le même niveau d'effectifs, soit près de 13 000 soldats et policiers. Cette résolution proposée par la France et adoptée à l'unanimité tient compte de l'élection du nouveau président centrafricain Faustin Archange Touadéra et de la fin prochaine de l'opération militaire française Sangaris. François Delattre est ambassadeur de la France aux Nations Unies.
Concrètement, ce mandat renouvelé s'articule autour de deux grands axes. Le premier axe, c'est de renforcer la posture militaire de la force pour, à court terme, mieux protéger les civils et faire face aux groupes armés, avec un mandat qui donne au casque bleu tous les moyens nécessaires à cette fin. Et le deuxième axe, c'est d'élargir son rôle dans la stabilisation du pays sur le long terme, avec des responsabilités nouvelles pour la MINUSCA, dans le domaine du soutien au dialogue politique, de la réforme des secteurs de la sécurité et de la justice, ou encore de la réforme des forces armées et de police.
Au Tchad, 6 candidats malheureux à l'élection présidentielle d'avril dernier ont promis d'unir leurs forces pour mener des actions avant et après la cérémonie d'investiture du président Idriss Déby le 8 août. Plus de précisions avec Arzouma Compaoré.
Le chef de l'opposition, Saleh Kebsabo, a annoncé hier la création d'un front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, ou FONAC, qui est composé de 29 partis politiques. Il a ajouté que ce regroupement autour de 6 candidats de l'opposition va mener des actions avant et après le 8 août, date de l'investiture du président Idriss Déby Itno. Monsieur Déby, 64 ans, a été réélu en avril au premier tour pour un 5e mandat. Les résultats officiels lui donnent plus de 61% et près de 13% à M. Kebsabo. Les opposants dénoncent un hold-up électoral. Idriss Déby Itno est arrivé au pouvoir en 1990. Le Tchad, pays pétrolier avec quelques 12 millions d'habitants, subit de plein fouet la chute du cours du brut. Ces derniers mois, le pays a souvent été secoué par une série de grèves dans plusieurs secteurs.
Manifestation hier des femmes à Bulawayo, la deuxième ville du Zimbabwe. Elles protestaient contre la crise économique et la répression policière dont des opposants au président Robert Mugabe sont victimes. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Ces femmes arboraient le drapeau national, devenu le symbole de ralliement de la contestation citoyenne. Selon Jenny Williams, présidente de l'organisation Women of Zimbabwe Arise, les femmes du Zimbabwe se lèvent, ou WOSA. Leur mouvement s'oppose à la brutalité policière, aux injustices et exige du gouvernement une solution à la crise socio-économique. Pour le deuxième mois consécutif, Harare a tardé à verser les salaires des soldats et fonctionnaires. Cette manif des femmes dans le fief de l'opposition s'est heurtée à la police anti-émeute. Elles ont par la suite déposé une pétition au bureau de la Commission des droits de l'homme pour demander des enquêtes sur les violations commises dans le pays. Depuis plusieurs semaines, le Zimbabwe connaît une série de manifestations et grèves suite à la grave crise économique que traverse le pays.
Ultimatum en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a 45 jours pour rembourser à l'État 500 000 $ dans le scandale de sa résidence privée. Nani Talani.
Le ministère des Finances avait évalué à 500 000 $ la somme que le président Jacob Zuma doit rembourser. Hier, la Cour constitutionnelle a approuvé cette somme. Cette même cour avait jugé en mars que le président avait violé la Constitution en refusant de rembourser les frais de rénovation de sa résidence privée qui n'était pas liée à la sécurité, notamment la construction d'une piscine et d'un poulailler. Maintenant, la balle est dans le camp de Zuma, qui dispose de 45 jours pour s'acquitter de sa dette, selon Maître Dylan Cran, avocat à l'origine de cette longue bataille judiciaire. La présidence n'était pas joignable pour commenter cette décision de justice à quelques jours des élections municipales du 3 août. Le scandale Kandla empoisonne depuis des années la présidence de Zuma. Après la décision de la justice en mars, l'opposition ainsi que des caciques de l'ANC avaient appelé à la démission du chef de l'État sud-africain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle attaque terroriste en France. Hier, deux jeunes ont égorgé un prêtre dans la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray, une cité ouvrière de 29 000 habitants dans la banlieue de Rouen, en Normandie. Cette attaque, revendiquée par le groupe État islamique, est la première contre un lieu de culte catholique en Europe. Elle intervient moins de 15 jours après le carnage de Nice qui avait fait 84 morts.
Ici, aux États-Unis, une centaine de célébrités du monde de la musique et de Hollywood ont signé une pétition appelant à s'unir contre la haine en votant pour empêcher le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, d'accéder à la Maison-Blanche. Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Page spéciale de la Convention des démocrates, deuxième journée. Hillary Clinton est devenue hier la première femme de l'histoire des États-Unis à obtenir l'investiture d'un des deux grands partis du pays. Et son mari Bill Clinton a électrisé la foule de délégués dans son discours à la convention du parti à Philadelphie. Compte rendu de l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Idrissa Seydoudia.
L'issue du vote n'était pas en doute. Il s'agissait simplement de savoir comment Bernie Sanders, son ancien rival des primaires, allait aider à rendre le processus plus harmonieux face à la colère des partisans des sénateurs du Vermont.
And I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Democratic Party for President of the United States.
Monsieur Sanders n'a pas déçu les attentes du camp Clinton, tout comme elle avec Barack Obama en 2008. Il a demandé que le vote soit par acclamation. Malgré ce geste symbolique, un noyau dur des partisans de Monsieur Sanders ont continué à manifester leur mécontentement. Bill Clinton, le mari de la candidate, a tenté de dire aux délégués qui est réellement Hillary Clinton. Comme lui seul en a le talent, il a commencé par raconter comment ils se sont rencontrés et par quelles étapes ils sont passés avant qu'elle n'accepte finalement de l'épouser il y a plus de 40 ans.
I'm married my best friend.
Selon lui, il a fallu 3 essais avant que sa meilleure amie accepte de l'épouser après 4 ans. Ensuite, l'ancien président a tenté de démontrer le travail qu'elle a fait pour défendre différentes causes pendant leur vie ensemble, toujours pour rendre meilleure celle des autres, particulièrement le sort des enfants. Bill Clinton a défendu le bilan de sa femme quand elle était à la tête du département d'État, citant notamment les sanctions contre l'Iran, et ce, avec le soutien de la Russie et de la Chine, pour obliger Téhéran à renoncer à son programme d'armement nucléaire, ses efforts pour calmer la situation à Gaza entre le Hamas et Israël, et aussi comment elle a perdu une de ses équipes combattant le terrorisme sur le terrain. La décision prise par le président Barack Obama de liquider Oussama Ben Laden, la fidélité à sa déclaration de 1995 à Pékin affirmant que les droits de la femme sont aussi les droits de l'homme. Et le nombre de personnes, surtout en Afrique, sauvées du sida, nombre qu'elle a aidé à tripler.
She tripled the number of people with AIDS in poor countries whose lives are being saved with your tax dollars.
L'ancien président s'est ensuite lancé dans un réquisitoire passionné contre les détracteurs de sa femme qui, eux, a-t-il dit, n'ont rien fait de leur vie pour changer une quelconque situation. C'est ça la différence entre la réalité et la fiction.
Your only option is to create a cartoon. A cartoon alternative, then run against the cartoon.
Selon Bill Clinton, la seule alternative qui reste aux adversaires de sa femme, c'est un personnage de bande dessinée, parce que la vie est compliquée. Mais a-t-il dit, les délégués ont fait un bon choix en choisissant le réel avec sa femme. Et il a assuré qu'ils ne seront pas déçus. Hillary Clinton étant la plus qualifiée pour la présidence face aux problèmes de l'heure, et également parce qu'elle n'est jamais satisfaite du statu quo. Hillary Clinton est elle-même apparue en vidéo en fin de soirée pour remercier les délégués démocrates.
We just put the biggest crack in that glass ceiling yet.
Nous avons mis la plus grande fissure au plafond de verre à ce jour. À cette petite fille là-bas, je peux devenir la première femme présidente, mais une d'entre vous pourrait être la prochaine. Quel honneur que vous me donnez, a déclaré Mme Clinton.
I may become the first woman president, but one of you is next.
Idrissa Sedoudia à Philadelphia, en Pennsylvanie.
Take a village to raise a child, prepare him to run a nation. We got some hard choices, but together we're going to make it. We're living in history. America, take a bow. We're about to show the world, yeah.
Il n'y a pas que des conseillers ou des opposants africains dans les couloirs de cette convention démocrate. Notre envoyé spécial Tatiana Mosso a rencontré un journaliste guinéen venu couvrir l'événement. Ben Bangoura n'en est pas à sa première couverture. Le correspondant de AlloConakry.com est interrogé par Tatiana Mosso.
C'est un événement historique. Je pense que c'est une inspiration non seulement pour les Africains, mais pour le monde entier. Et je pense que c'est une bonne chose.
On voit qu'elle n'a quand même pas convaincu tout le monde. On a vu les supporters de Bernie Sanders envahir la salle de presse cet après-midi. Il y a des irréductibles. Comment est-ce qu'elle peut les séduire, les convaincre de voter pour elle avant de demander au reste de l'Amérique de voter pour elle le 8 novembre?
Je crois que cette convention va réparer cette division qu'il y a au sein du Parti démocrate. Vous vous souvenez, en 2008, elle avait aussi une grande majorité de supporters qui affirmaient sans embâche qu'ils n'allaient pas voter pour Barack Obama. Mais lorsque la convention a eu lieu à Denver, les gens, à travers les discours, à travers des workshops, les gens ont fini par comprendre que ils ont la même plateforme, ils ont le même programme, et donc ils ont rejoint les rangs de Barack Obama. Je crois que c'est la même chose pour Bernie Sanders. Ses supporters sont déçus, c'est vrai, parce qu'ils estiment que le système est un peu injuste.
C'est une convention plus facile, plus fascinante que les autres à couvrir?
Fascinante, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de tabou ici. Nous venons, c'est pour glorifier le ticket qui est là. C'est le début de la campagne et je crois qu'il n'y a pas grand-chose.
Attendu ce soir, les discours du vice-président Joe Biden et celui du président Barack Obama. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième journée de la Convention des démocrates.
Bye-bye. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura de retour avec vous sur VOA Afrique en direct de Washington. Nos dossiers du jour. En RDC, 6 activistes pro-démocratie ont été contraints de quitter la prison à Goma. Ils ont été graciés par le président Kabila, une mesure qu'ils ont boudée, voulant purger les quelques 3 semaines restantes de leur peine de 6 mois. Il s'agit surtout pour eux d'un signe de solidarité à une dizaine d'autres de leurs camarades toujours en prison à Kinshasa. Charlie Kasereka, notre correspondant, les a suivis après leur expulsion de la prison centrale de Goma.
Selon l'un de ces jeunes militants, ils ont été forcés de quitter la pièce qu'ils partageaient avec plusieurs co-détenus à la prison centrale de Mouzenze à Goma. Jivan Kombi, l'un de ces jeunes activistes, souligne que l'ordre a été donné par des autorités judiciaires et pénitentiaires.
Ils nous ont vraiment tiré des forces, mais ça c'est à l'intérieur de la prison. En demandant à d'autres détenus de nous tirer avec un peu de violence. Et d'ailleurs, lorsque on discutait avec le procureur général lui-même, il nous disait que c'est lui qui a donné ordre.
Gracié par le président de la République et depuis le 22 juillet dernier, ils ont refusé de quitter la prison en voulant purger leur peine et surtout en signe de solidarité avec leurs compagnons encore détenus à Kinshasa et depuis plus de 12 mois maintenant sans jugement, ajoute Jivin Kombi.
Il ne faut pas qu'on nous donne des demi-mesures et que nous acceptions qu'il y ait quelque chose de bon qui venait d'être fait. Quand nous avons dit que nous ne quitterons de la prison que lorsque les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques seraient tous, n'est-ce pas, libérés.
Pour ces jeunes activistes, la détermination reste la même et très renforcée malgré les petits stress de la prison.
Il n'y a pas de problème jusqu'ici, mais il faut dire que la prison reste la prison. Le système carcéral en RDC est très déplorable. Tout ce qui nous préoccupe, c'est toute notre détermination. Nous continuons à exiger que la décrispation de la situation politique au Congo doit passer par la libération de tous les prisonniers politiques que les prisonniers d'opinion. On a à l'occurrence Fred Bauma, Yves Makwambala, et même si on quitte la prison de Mounzenze, nous savons que ce n'est pas un pari dans lequel nous venons de tomber. C'est un peu comme la même chose, être en prison qu'être à l'extérieur. La RDC elle-même, c'est comme une grande prison. Quand nous vivons dans un contexte où on ne nous laisse pas nous exprimer, ça nous indigne toujours.
Ces 6 jeunes militants de la Lucha avaient été condamnés pour tentative d'incitation à la révolte et à 6 mois de prison le 4 mars dernier à Goma. Leur mouvement Lucha, lutte pour les changements, a reçu le prix de l'ambassadeur de la conscience 2016 de l'Amnesty International. Charlie Kasereka, depuis Goma pour VOA Afrique.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Direction le Mali à présent, où les magistrats vont en grève de 72 heures à partir de ce mercredi. Selon le président du syndicat autonome de la magistrature, les juges mettent en cause l'échec des négociations avec le gouvernement. On fait le point avec Kassim Traoré.
La cour d'appel de Bamako était bourrée de monde. La raison est simple, il y avait une assemblée générale d'information du syndicat autonome de la magistrature SAM. Cheikh Mohamed Chérif Kone, président du comité directeur du SAM.
L'Assemblée générale, je pense que vous l'avez suivie en même temps que nous, parce qu'elle était ouverte à tout le monde. Donc, il était question de débattre du maintien du préavis de grève, faire le point des préparatifs de cette grève pour qu'elle puisse être une réussite. C'est unanimement arrêté par les magistrats, comme quoi la grève est irréversible du fait de la mauvaise foi de nos interlocuteurs qui étaient les représentants du gouvernement. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui prêts pour aller à cette grève et c'est une grève qui ne va pas observer de service minimum.
Pendant une semaine, les magistrats étaient à la table de conciliation avec le gouvernement. La plupart des points de leur cahier de doléances demandent une amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats maliens.
Les négociations ont échoué parce que les points qui constituaient la substance même du cahier de doléances n'ont pas fait l'objet d'accord parce que cette grève vise l'amélioration des conditions des magistrats qui est aujourd'hui nécessaire pour assurer leur indépendance économique. Les points d'accord ont porté sur 8 points sur les 26 points de revendication. Et les points d'accord sur les 8 points, ce n'étaient pas des points essentiels. Mais les points essentiels n'ont pas fait l'objet d'accord. Et c'est ce qui fait que notre grève se justifie à tous les niveaux.
Malgré le fait qu'il y a un autre syndicat de magistrats, le SAM pense que sa grève sera suivie. Cheikh Mohamed Chérif Kone, président du comité directeur du SAM.
C'est une cause commune. Le syndicat autonome de la magistrature, le syndicat libre de la magistrature. Nous sommes des magistrats, nous poursuivons les mêmes intérêts, les mêmes buts. Donc il n'y a pas de raison qu'un syndicat ne soutienne pas les actions de l'autre. La grève commencera le mercredi et se poursuivra jusqu'au vendredi et prendra fin le vendredi à minuit. Ça veut dire qu'on sera au travail jusqu'au lundi.
C'est ce lundi 25 juillet 2016 que les négociations sans gouvernement ont connu leur épilogue dans le cadre de la commission de conciliation. Sur les 27 points de revendication, il y a un point qui a été retiré. 8 ont eu des suites favorables et 17 n'ont pas été satisfaits. C'est pour cela que le SAM a maintenu sa grève de 72 heures de 27, 28 et 29 juillet 2016 sur l'ensemble du territoire national. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir, lui, s'est débarrassé hier de son rival Riek Machar. Dans un décret, il a ordonné la nomination de Tabadeng Gaye au poste de vice-président. Quelles sont les implications sur l'accord de paix signé à Addis Abeba le 26 août dernier? Eh bien, Eric Manirakiza a posé la question à Roland Marshall. Il est chercheur sur la Corne de l'Afrique au CERI, Centre d'études de relations internationales.
Le premier effet, c'est que aujourd'hui, on tend à oublier de se demander qui sont responsables des affrontements à Djouba dizaines de jours maintenant. Ça, c'est inquiétant parce que ça veut dire que l'impunité va continuer. La deuxième chose, c'est que évidemment, cette nomination, elle va diviser le camp de Riek Machar et d'une certaine façon, elle fait craindre des affrontements qui, au moins dans un premier temps, seraient localisés dans les zones où Riek Machar est le plus populaire et les nuers sont les plus nombreux. Et puis, troisième effet, si vous voulez, c'est que l'exclusion, enfin la mise à pied de Riek Machar, même si juridiquement elle n'est sans doute pas une aberration, elle pose le problème de l'accord de paix qui a été signé en juillet dernier et de la continuité de cet accord de paix. Est-ce qu'il faut, à partir de là, considérer que cet accord de paix est fort clos, qu'il n'a plus aucune valeur, puisqu'il y a un nouveau leader, un nouveau vice-président qui va prendre des décisions librement et ou est-ce que c'est simplement le remplacement d'un homme par un autre? Mais en général, dans les accords de paix, le choix est laissé à la partie et pas à l'adversaire. On a le droit d'être extrêmement inquiet sur ce qui va se passer au Sud-Soudan dans les semaines qui viennent.
Le président Salva Kiir s'est appuyé justement sur les dissensions au sein de l'ex-rébellion. Est-ce que c'est dans son intérêt?
Ce conflit est un conflit très politique. Il a différentes dimensions. Une dimension ethnique, évidemment, mais qu'il a aussi une dimension personnelle. Donc, on peut imaginer que voir Riek Machar disparaître de Djouba est plutôt une bonne nouvelle pour Salva Kiir. Maintenant, je crois que Salva Kiir n'est pas un homme d'État et il est très possible, une fois de plus, qu'il se soit laissé aller ou qu'il ait suivi le conseil de son entourage et qu'il ait pris cette décision sans en mesurer toutes les conséquences.
L'Union africaine veut une force beaucoup plus de mandat pour se battre. Est-ce que vous pensez que c'est une force qui peut remettre de l'ordre à Djouba?
Ce qu'il aurait fallu faire, c'était évidemment démilitariser Djouba. Je suis assez étonné que les Nations Unies aient si mal travaillé à cet objectif. Alors on peut rajouter une force de l'Union africaine qui sera peut-être un peu plus disposée à avoir des victimes. Mais il faut le dire crûment, il n'est pas question que l'Union africaine fasse la guerre à l'armée soudanaise dans la capitale.
Voilà, Roland Marshall, chercheur au CERI, le Centre d'études des relations internationales, a été joint à Paris par Eric Manirakiza.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec John Lindon.
La Banque mondiale a suspendu sa contribution financière au projet de barrage hydroélectrique Inga 3 en République démocratique du Congo. En mars 2014, la Banque mondiale avait approuvé un don de 73 millions de dollars pour ce projet. Environ 6% du montant de cette contribution a été déboursé à ce jour, précise l'institution. Le coût total de ce barrage, qui a pour ambition de fournir du courant à l'Afrique tout entière, est estimé à 12 milliards de dollars. L'Afrique subsaharienne n'a enregistré que 1,6% de croissance en 2016. C'est ce qu'indique le Fonds monétaire international dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale paru en juillet. En 2015, l'Afrique subsaharienne en était à 3,3%. Ici aux États-Unis, le groupe Apple a subi un nouveau recul des ventes de l'iPhone. Sur les trois mois achevés fin juin, Apple a écoulé plus de 40 millions d'iPhones. Les ventes trimestrielles de la tablette iPad et celles des ordinateurs Mac ont également baissé. Résultat, Apple n'a réalisé qu'un bénéfice net de près de 7 milliards de dollars, soit une chute de 27%.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Bonjour Nicolas Pinault.
Bonjour Bagassi.
Suite du championnat d'Afrique des nations de basketball des moins de 18 ans, c'est à Kigali.
La République démocratique du Congo battue 75-83 par l'Angola dans le groupe B. Toujours dans ce groupe, l'Ouganda a sèchement dominé le Bénin 83-57. Et dans le groupe A, la Côte d'Ivoire a battu le Gabon 77-68. Belle victoire du Mali 72-68 contre l'Algérie.
En football, le mercato se poursuit en cette période estivale.
Le milieu de terrain de Guingamp, Younous Sankaré, s'est engagé pour 4 saisons avec Lille. L'international sénégalais, qui aura 27 ans en septembre, était en contact depuis plusieurs semaines avec le LOSC, qui devait d'abord se séparer de joueurs avant de pouvoir le faire venir. Le puissant milieu de terrain, formé au Paris Saint-Germain, a disputé 7 saisons, 33 rencontres de Ligue 1 et marqué 6 buts avec la formation bretonne.
Et la Juventus Turin qui casse sa tirelire.
L'attaquant argentin Gonzalo Higuain, dont la clause libératoire avait été fixée par Naples à plus de 94 millions d'euros, a été transféré de Naples à la Juventus Turin. C'est ce qu'a confirmé le directeur sportif du club turinois Beppe Marotta. On rappelle que Gonzalo Higuain, c'est 36 buts la saison dernière dans le Calcio. Pendant ce temps, en match amical mardi, la Juventus Turin a battu Tottenham 2-1.
Les Jeux Olympiques approchent et le dopage plane toujours autour de la compétition.
Le champion olympique allemand du disque, Robert Harting, a accusé Thomas Bach, le président du Comité international olympique, de faire partie du système de dopage après sa décision de ne pas suspendre le Comité olympique russe des Jeux de Rio. Harting, champion olympique en 2012 à Londres et trois fois champion du monde entre 2009 et 2013, a déclaré ne pas comprendre cette décision. Selon le champion de 31 ans, critique de longue date de son compatriote Thomas Bach, le CIO déçoit encore un peu plus.
Merci Nicolas.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Et bien c'est tout pour cette édition matinale. Gardez la conversation, c'est sur notre page Facebook VOA Afrique. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique Bagassi Koura à Washington. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.